Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, le Christ nous montrait comment ne pas succomber aux trois angoisses fondamentales de l'âme humaine. L'angoisse de la mort, que nous essayons de calmer par la jouissance à travers le manger, la gourmandise, c'est la jouissance sans Dieu. En deux, l'angoisse de la solitude, que nous tentons de combler par l'orgueil, la vanité et la puissance. C'est la recherche du pouvoir. Et en trois, l'angoisse du sens de la vie, auquel nous essayons de répondre par l'accumulation des biens. C'est l'avoir. Et aujourd'hui, le fils cadet répète le même schéma. Il veut l'argent, son héritage. Il veut tout posséder tout de suite. C'est l'avoir. Il vit en homme prodigue pour se payer la reconnaissance des autres. C'est le pouvoir sur les autres par l'argent. Le pouvoir. Il a faim de vivre, il veut jouir de la vie et être son propre chef. C'est la jouissance sans Dieu. Ces trois angoisses sont ontologiques à la nature humaine. Et chez le fils aîné, nous retrouvons aussi ces trois angoisses. Il est jaloux de son frère. C'est la recherche du pouvoir sur l'autre. Il se compare, il pense qu'il a moins. C'est la recherche de l'avoir. Il sert son père, il obéit et a l'impression de ne pas pouvoir jouir librement de la vie. Et nous, avec qui ressentons-nous une certaine affinité? De qui nous sentons-nous le plus proche? Quel est celui qui a le comportement qui se rapproche le plus de nous? Du fils aîné ou du fils cadet? Celui qui semble suivre les règles ou celui qui semble vouloir jouir de la vie sans contrainte? Certains commentateurs de l'Église ont essayé de montrer qu'il n'était pas bon de vivre comme le fils cadet, sans contrainte, jouisseur, et qu'il était mieux d'avoir un comportement proche du fils aîné, qui suit les règles, qui se comporte suivant la loi. Je trouve d'ailleurs personnellement que le choix de l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens est un peu malheureux et va dans ce sens. Nous vous prescrivons au nom du Seigneur Jésus-Christ de vous tenir à distance de tout frère qui vit dans le désordre et qui ne suit pas les traditions que nous avons reçues de nous, que vous avez reçues de nous. Cela établit une hiérarchie malsaine entre les hommes, et cela sous-entend que le salut serait conditionné à la façon dont nous aurons vécu. Le message de l'Évangile va à l'encontre de cette façon de voir. Comme je vous le disais la semaine dernière, nous sommes le fruit de l'amour infini de Dieu pour sa créature. Sa créature, c'est l'homme. Et l'amour ne peut se concevoir que dans la liberté que Dieu laisse à l'être aimé. Toute la difficulté de la vie réside dans le comment vivre la relation avec Dieu, comment faire l'expérience de Dieu dans notre vie. Et nous avons ici deux expériences différentes. Pour le fils cadet, l'expérience de Dieu se fait d'abord dans la recherche de la liberté pour lui-même. Il ne veut plus de contraintes. Il coupe les liens avec son Père, qui, vous l'avez compris, symbolise Dieu. Il part vers un pays lointain, c'est-à-dire éloigné de la source de vie, un chemin oublieux de Dieu. Il va chercher la jouissance sans Dieu grâce aux biens matériels et la prodigalité. Le fils cadet est l'illustration de bien des hommes aujourd'hui, ni meilleur ni pire que d'autres. Il pense lui aussi que pour vivre, il faut posséder, il faut être dans le pouvoir et profiter au maximum de la vie. Ce que le fils cadet fait est conforme à l'homme qui se trompe d'époux, qui suit l'appel du serpent, comme Adam l'avait fait. Les angoisses de notre âme, exacerbées par les propositions alléchantes du démon, sont trop fortes. Et nous suivons le chemin qui semble le plus facile. C'est hélas un mirage où l'âme pourrait se perdre à jamais en oubliant son origine divine. Et pourtant, dans son expérience de vie, le fils cadet s'est montré généreux avec les autres. Peut-être était-ce calculé, il recevait en échange la reconnaissance. Peut-être aussi, l'expérience qu'il a vécue lui a permis de se délester plus rapidement de ses biens éphémères et de découvrir où était l'essentiel. L'essentiel, c'est la source divine. C'est là que réside la vie. Et ce n'est que dans la détresse la plus totale, lorsque tout nous semble perdu, que la grâce divine peut venir nous toucher, nous invitant à faire mémoire de qui nous sommes réellement. Des fils de Dieu aimés inconditionnellement. Cette nostalgie de l'amour divin est présente en chacun d'entre nous. Mais quand tout va bien, elle est étouffée par les plaisirs éphémères. C'est dans l'expérience du manque qu'elle peut se réanimer. Job aussi est passé par l'expérience du dépouillement complet. Mais il a gardé sa confiance dans le Seigneur, sa nostalgie de l'amour divin. Et la deuxième expérience est celle du fils aîné. Le fils aîné, lui, vit une autre expérience de la vie. Il y a une petite phrase dans l'Évangile qui est importante à souligner. Après que le fils cadet est venu demander sa part d'héritage, l'Évangile nous dit « Et il, c'est Dieu, c'est-à-dire le Maître, le Père, il leur partagea son bien. » Cela veut dire que l'un et l'autre ont reçu leur part d'héritage. Objectivement, personne ne peut se dire lésé, et certainement pas le fils aîné. L'expérience de la vie du fils aîné est différente. Lui, il l'a subi. Il l'a subi sans joie, en s'enfermant dans le fer, dans une certaine forme d'avarice. Il lui manque peut-être un peu de la folie de son frère cadet. Il fait les choses par devoir. Il pense gagner l'amour de son père par ses mérites. Il fait tout de manière conformiste. Mais au fond de lui, il est prisonnier de cette image qu'il s'est bâtie. Il est aigri, jaloux. La colère et la rancune bouillonnent au fond de lui et étouffent aussi sa nostalgie de l'amour divin. Voici des années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à ton commandement. Et à moi, tu n'as jamais donné même un chevreau pour faire la fête. Son masque de fils parfait est lourd à porter, parce qu'il le porte par devoir. Et en se retranchant dans des règles extérieures subies, il s'élève en juge pour ceux qui ne respectent pas les règles. Il est semblable aux pharisiens dont Jésus parle au début du chapitre de cette parabole. Ils murmuraient entre eux contre Jésus parce qu'il accueillait des gens qu'eux trouvaient de mauvaise vie, et il mangeait avec eux. Ces deux expériences de vie nous montrent que l'amour de Dieu n'est finalement pas dépendant de nos mérites, ni du pardon ou du châtiment que Dieu nous donnerait. Parce que l'amour de Dieu, l'amour véritable, est un pur don. Pour Dieu, il n'y a pas une expérience de vie qui est meilleure ou moins bonne que l'autre. Mais dans cet évangile, chacun des deux protagonistes représente le chemin de l'homme. D'abord, l'homme extérieur, détourné de Dieu. C'est le vieil homme dont parle saint Paul. L'homme terrestre, guidé par ses états d'âme. L'homme esclave du démon, de ses passions. L'homme qui se perd. Mais l'homme aussi qui évolue, qui est invité à amener à la vie d'homme intérieur, à amener à la vie de l'homme intérieur, l'homme nouveau, l'homme divinisé, délesté de ses entraves. L'aîné comme le cadet ont quitté et oublié leur maître intérieur. L'un en se coupant de Dieu ouvertement, en voulant mener sa vie à sa guise, et l'autre en se trompant de cible et en se réfugiant dans des principes extérieurs qu'il subit par devoir. Ce qui est important, c'est de voir que c'est le Père, Dieu, qui va vers l'un et l'autre pour les accueillir dans l'état où ils sont. C'est ça l'amour de Dieu. Pas de reproches, de châtiments, pas de comptabilité mesquine pour bénéficier de son immense compassion. Le souci de Dieu par cette parabole est de nous faire sentir que quelle que soit notre histoire, il nous ouvre les bras. Quel que soit le chemin où nous nous sommes égarés, il est là pour ramener à la vie notre être intérieur, celui qui est au fond de nous, à l'image de Dieu. La vie spirituelle, c'est la recherche de la vie avec un grand V. C'est une suite continuelle de chutes qui vont permettre à Dieu d'agir. Le Christ ne peut agir que lorsque, délesté de ce qui nous étouffe et nous entrave, nous nous tournons vers lui. Alors pendant ce temps de carême, désencombrons-nous, retrouvons le chemin de la source de vie et redonnons vie à cette image de Dieu déposée en nous qui est la semence de l'homme nouveau. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.